Chapitre 12. Paul dit le lendemain Clémence à son cousin, « Occupe-toi d'activer les préparatifs de notre retour à Villamarille. » « Eh, quoi ? » dit Paul tout surpris, « tu ne préfères pas rester à Séville ?»« Non, mon ami, le séjour de la ville ne te plairait pas et tu n'y resterais que par complaisance. D'ailleurs, je soupire après le moment de me retrouver à Villamarille, là où j'ai passé de si heureux jours, là où l'habitude m'avait créé une si douce existence. Avec l'habitude, les sites, les murailles, chaque objet qui nous entoure devient pour nous un ami. J'ai hâte, mon Paul, de revoir ces endroits que la tendresse dont vous m'avez comblé a empreint d'un reconnaissant souvenir. D'ailleurs, aucun lien, aucun attrait ne me retiennent à Séville. Ma pauvre tante n'a pas longtemps à vivre. Après la mort de sa mère, Constance se retirera dans un couvent, mon cousin va retourner à Madrid et la société d'Allegria ne m'est nullement sympathique. Dis-moi, Paul, mon appartement est-il encore dans l'état où je l'avais laissé ? Tu n'y trouveras rien de changé. Après ton départ, j'en ai fait mon sanctuaire. Seulement, tu y verras peut-être des traces de mes larmes. Et mes fleurs ? Elles ont fleuri, même en ton absence, à mon grand étonnement. Les ingrates. Et mes oiseaux? Ils ont continué à chanter, sans doute ils avaient le pressentiment de ton retour. Le retour de l'enfant prodigue, dit Clémence en serrant affectueusement la main de son cousin. Aussi, pour fêter dignement ton arrivée, dit Paul en souriant, je partirai dès demain matin. J'ai hâte de jouir d'un bonheur qui me semble encore un rêve et je redoute le réveil. Je suis aussi pressé que toi, mon Paul, et dès que les formalités auront été remplies, dès que notre union aura été bénie sous les yeux de celle qui m'a servi de mère, nous retournerons nous asseoir ensemble au vieux foyer de la famille. Là, nous tâcherons d'imiter les vertus et de trouver le bonheur de ceux qui nous ont précédés. Clémence s'empressa de faire part de son mariage à sa tante et à ses cousines. « Je te félicite, mon enfant, lui dit la marquise. Une union, désirée par ton beau-père et par ton oncle, ne peut être qu'une heureuse union. »« Mais si tu veux m'en croire, ajouta Allegria, apprends dès les premiers jours à ton mari à n'être ni sottement méfiant, ni ridiculement jaloux. » En supposant que Paul puisse le devenir, à Villamarille, il n'en aurait guère de motif. Comment tu vas habiter ce village ? Les chefs de la famille de Guevard l'ont toujours habité. Pourquoi exigerais-je un changement qui déplairait à mon mari et qui ne me plairait pas à moi-même avec mes goûts pour la campagne ? Mais c'est enterré, toute vive ! Si une femme s'enterre parce qu'elle vit au foyer de sa famille, parce qu'elle se consacre tout entière à l'accomplissement de ses devoirs, je revêtirai avec joie le suaire qui m'enveloppera dans cette tombe. À mes yeux, le mariage n'est pas une occasion de plaisir tumultueux, c'est bien plutôt une sainte mission où la femme doit se consacrer tout entière au bonheur de son mari. Voilà ce qu'ils appellent de la folie romanesque. Avec 100 000 euros de rente, aller vivre dans un trou, c'est tout bonnement de la stupidité. Et il faut vivre en Espagne pour voir choses semblables. Cela se voit ailleurs, ma chère cousine. En Allemagne, en Angleterre, les grandes familles passent une grande partie de l'année dans leur domaine et quelques mois seulement en voyage ou dans les capitales. Au reste, nous ferons de même. Nous viendrons pendant l'hiver passer la Semaine Sainte à Séville et pendant l'été, nous ferons quelques excursions, soit aux eaux, soit ailleurs. Mais abandonner le berceau de notre famille, ce serait un crime de lèse-amour filial. Je t'attends à l'expérience. Tu as pris goût à Séville, et quand la lune de miel sera passée, nous verrons si tu persisteras dans tes idées bucoliques et patriarcales. J'espère bien que la lune de miel ne passera jamais, ajouta Clémence en souriant. Nos ruches sont assez abondantes pour en fournir à perpétuité. Tu seras heureuse, dit Constance, car tu n'as rien à te reprocher dans ta vie et ta conscience est restée pure et sans tache. Dieu doit bénir ton avenir. Ce souhait mystique vaut une épithalame, dit en riant Allegria. Quant à moi, je me contenterai de t'adresser la phrase banale que le jour du mariage te soit léger, et puisque tu veux t'enterrer vivante, que la terre te soit légère. » Paul revint bientôt, et le jour du mariage fut fixé. La veille de ce jour, Dongal rencontra Sir George dans la rue. Dongal n'avait pas oublié la scène dont nous avons parlé. Aussi, tournant la tête, il voulut éviter sa rencontre. Mais l'Anglais pressa le pas et arrêta l'ami de Clémence. « Oh, Sir George ! » s'écria celui-ci un peu troublé. « Je ne vous avais pas aperçu. Il n'est rien d'étonnant. J'ai une si mauvaise vue. »« Je suis enchanté de vous rencontrer, » dit Sir George. « J'allais chez vous pour vous engager à venir dîner avec moi. J'ai reçu par le dernier vapeur un envoi de faisan et certains vins de choix. Ce serait avec un vrai plaisir que j'accepterai votre aimable invitation, » répondit avec un sourire un peu forcé Dongalo, dont la mention de ces vins de choix réveillait l'inquiétude avec le souvenir. « Mais je suis tellement occupé. Il faut bien aller vous chercher, car vous ne venez plus chez moi et Madame de Guevard ne reçoit plus. » En effet, depuis l'aggravation de la maladie de sa mère, Clémence a fermé son salon. Elle passe toutes ses soirées auprès de la marquise. « Ne m'avez-vous pas dit que Clémence se mariait ?» Dongalo, qui se remettait peu à peu, répondit de son ton naturel. « Je vous l'ai dit, et c'est la vérité. Je l'ai su le premier, mais à présent, c'est le secret de Polichinelle. On m'a dit que celui qu'elle épouse est un campagnard, un peu rustre. On vous a mal informé, fort mal, milord. Je connais son novio, et je puis vous certifier que c'est un gentilhomme, fort comme il faut, doué d'un charmant caractère, d'un esprit cultivé, enfin le digne élève du savant abbé de Guevard à son oncle. Paul de Guevard est généreux, charitable et brave comme son épée. On raconte de lui des histoires surprenantes, entre autres un combat contre 5 bandits. Oh, de grâce, Dongalo, pas d'histoire de bandits. J'en ai assez de celles que les aveugles vont chantant par les rues. Et de plus, ajouta Dongalo en déployant son plus gracieux sourire, le novio est fort riche, ce qui ne gâte rien. Vous voyez que notre charmante veuve ne pouvait faire un meilleur choix. Sir George jeta sur Dongalo un regard de défiance. Mais celui-ci poursuivit, sans se douter le moins du monde du danger qu'il courait. « Entre nous, Sir George, ce mariage a déconcerté bien des gens. » Sir George, contenant à grand-peine son envie de souffleter Pando, lui répliqua avec douceur, « J'ai reçu des nouvelles qui me forcent à quitter ces villes. Puisqu'il ne m'est pas possible de prendre congé de notre amie Clémence, seriez-vous assez bon, en lui présentant mes hommages et mes regrets, pour vous charger d'une commission pour elle ?»« Bien volontiers, Sir George, » répondit poliment Dongalo. À l'occasion d'un mariage, il est d'usage d'offrir un souvenir à ses amis. Voulez-vous vous charger de celui que je destine à Clémence ? Je regrette vivement d'être obligé de vous refuser, mais je sais de science certaine que Guevara a exigé de Clémence qu'elle ne reçût de cadeau de personne. Une seule et unique exception a été faite, ajouta-t-il avec le ton d'un orgueilleux triomphe, et c'est en faveur de mon carnet. Après un moment de silence, « Dites-lui au moins, reprit Sir George, que j'avais l'intention de lui faire remettre un diamant auquel je tiens beaucoup. C'eût été pour elle une occasion de se rappeler quelquefois un véritable ami. Vos paroles seront textuellement rapportées à Clémence. Fiez-vous à moi, milord, j'ai bonne mémoire et encore un plus grand désir de vous plaire. » En abordant Dongalo, Sir George avait un triple but. D'abord, il voulait avoir sur Paul des renseignements que personne n'était plus en état de lui fournir que l'impartial et véridique fonctionnaire. Puis, il tenait à prouver, à quiconque aurait pu lui supposer encore de l'amour pour Clémence, que, loin d'être blessé par son mariage, il était le premier à y applaudir. Enfin, il espérait effacer, dans l'esprit de Clémence, le fâcheux souvenir de cette grossière lettre qu'il lui avait adressée et y laisser les traces du repentir d'un noble cœur. Sir George partit le soir même pour Cadix. Le lendemain, aussitôt après la bénédiction nuptiale, Paul et Clémence partirent pour Villa Marie. À leur arrivée, ils trouvèrent réunis, non seulement les nombreux serviteurs de la maison, mais encore toute la population du village. Juan a pleuré de joie, les enfants se précipitaient vers Clémence, et tous faisaient retentir dans les airs leurs enthousiastes acclamations. La tante Latrana ne manqua pas la fête, et, fendant la foule, elle vint souhaiter la bienvenue à Clémence et réclamer les dragées de la noce. Clémence était ravie. Elle ne pouvait se lasser de parcourir la maison qu'elle retrouvait dans l'état où elle l'avait laissée. Les fleurs répandaient leurs plus suaves parfums, et, pour fêter sa bienvenue, les oiseaux célébraient leur plus joyeux concert. Paul avait tout soigné avec ce culte qu'inspire le souvenir d'un objet aimé. Clémence était sous l'impression de ce sentiment de bonheur en remettant le pied sur le sol de la patrie, un navigateur échappé au naufrage. Elle jetait sur tout ce qui l'entourait un regard caressant, elle voyait tout, elle touchait tout avec amour. Tout à coup, en fouillant dans un tiroir, « Oh, Paul !» s'écria-t-elle, « vois donc ce que je viens de trouver, le sachet que me donna la petite bohémienne après m'avoir dit la bonne aventure. Je me le rappelle maintenant, elle m'avait dit de ne l'ouvrir que le jour de mon mariage. Ouvre-le, Paul, et voyons si elle a prédit juste. » « C'est un enfantillage, ma Clémence, mais j'obéis pour te complaire. » Clémence s'approcha de son mari, qui déploya le papier renfermé dans le sachet, et lut « La rose sait bien. En quelle main elle se pose ?» s'écria Clémence en achevant la phrase et en appuyant sa jolie tête sur le noble cœur de son mari.